Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le Saint-Père s'est adressé aux populations de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud dans un message vidéo diffusé le samedi 2 juillet. Le pape les invite à l'espérance et à l'ouverture de nouveaux chemins. Les dirigeants libyens se trouvaient samedi sous une pression croissante de la rue au lendemain de vastes manifestations provoquées par des coupures d'électricité chroniques. Nous vous en parlerons dans l'actualité politique et sociale sur le continent africain.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons par l'actualité de l'Église avec la semaine du pape présentée par Stanislas Kambashi.
Le pape a envoyé un vidéo-message aux populations de la RD Congo et du Soudan du Sud le samedi 2 juillet, date à laquelle il devait commencer son voyage apostolique dans ces deux pays. Le Saint-Père a réitéré son regret d'avoir été contraint de reporter ce voyage pour des raisons de santé. François a manifesté sa proximité envers les populations de ces deux pays qu'il porte dans la prière pour les souffrances qu'ils endurent depuis bien longtemps. Le pape a dit sa pensée spéciale pour la RD Congo qui souffre de l'exploitation, de la violence et de l'insécurité, particulièrement à l'Est où les affrontements armés sont exacerbés par une large indifférence et une complaisance. Les pensées du Saint-Père sont allées ensuite à l'endroit du Soudan du Sud, au cri de paix de son peuple, épuisé par la violence et la pauvreté, et qui attend la concrétisation du processus de réconciliation nationale auquel François entend contribuer avec l'archevêque de Canterbury et les modérateurs de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Le pape invite les Congolais et les Sud-Soudanais à garder ferme l'espérance. Ne vous laissez pas voler l'espérance, car vous êtes précieux aux yeux de Dieu, Dieu qui écoute vos prières et ne déçoit jamais ceux qui mettent en lui son espérance, a dit le pape. Vous avez une grande mission, celle de tourner la page afin d'inaugurer les nouveaux chemins de coexistence pacifique et de développement. Une mission à assumer particulièrement envers les jeunes qui peuplent ces terres luxuriantes et blessées qui doivent être remplies de lumière et d'avenir, a déclaré le Saint-Père. À la fin de son vidéo-message, François s'est dit impatient de rencontrer les Congolais et les Sud-Soudanais, de voir leur visage et de se sentir chez lui dans leur communauté chrétienne. Au courant de la semaine qui vient de s'achever, vendredi a été rendu public un entretien du pape à l'agence de presse argentine TELAM. Dans cette conversation où il a abordé une variété de questions, de la pandémie aux soins de la maison commune, des jeunes à son engagement en politique, de l'Église en Amérique latine à la crise des institutions, le souverain pontife est notamment revenu sur les thèmes de la guerre et de la gestion des crises et a tenté de faire les bilans de son pontificat. Recevant en audience jeudi une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, le pape François s'est exprimé sur la recherche de l'unité entre chrétiens. À la solennité de Saint-Pierre et Paul, le pape François a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre de Rome mercredi, une messe célébrée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Sacré Collège. Dans son homélie, le Saint-Père a invité fidèles et pasteurs de l'Église à se lever en hâte et mener les bons combats pour former une Église libre et humble dans les pas de 200 apôtres martyrs. Toujours mercredi, à la solennité des saints patrons de Rome, martyrs selon la tradition, le pape s'est attardé à l'Angélus sur leur maturation progressive en tant que chrétien, sur les contradictions des pierres et les doutes des pôles. Le pape François a publié mercredi la lettre apostolique Desiderio Desideravi, je désirais d'un grand désir, dans laquelle il offre des pistes et des réflexions sur la célébration de la liturgie. Deux drames d'émigration ont fait réagir le pape François dans un tweet mardi, la nouvelle des tragédies des migrants au Texas et à Melilla. François a reçu en audience lundi dans la salle Paul VI les membres du chemin néo-catéchuménal, 430 familles envoyées en mission dans les zones les plus pauvres et les plus sécularisées du monde.
Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin visite les deux pays en tant que représentant du pape qui, le 11 juin, a annoncé qu'il ne pourrait pas effectuer son 37e voyage apostolique international en raison de problèmes de santé à la jambe droite. Cette visite qu'il désirait depuis des années aurait dû avoir lieu au Soudan du Sud avec l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, Ian Greenshield. À ces deux peuples, le pape a promis qu'il les rencontrerait personnellement pour les encourager à aller de l'avant dans leur foi et leur témoignage chrétien. Le 3 juillet, le cardinal Parolin célébrera une messe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, devant le siège du Parlement, à l'endroit même où le pape devait célébrer. La messe que le pape François présidera simultanément le dimanche 3 juillet en la basilique Saint-Pierre à l'intention de la communauté congolaise sera retransmise sur les ondes courtes sur les fréquences 15 610 kHz. L'actualité de l'Église nous conduit à présent au Burundi où Cyril Ndaizeruka nous fait part de la messe célébrée le jeudi 30 juin au lendemain de la solennité de Saint-Pierre et Paul par le nonce apostolique Monseigneur Dieudonné Datonou.
Dans son homélie commentant les textes liturgiques prévus pour cette solennité, le nonce apostolique a exhorté les fidèles à imiter Pierre et Paul qui, dans leur parcours et leur personnalité si différents, ont pu servir Dieu. Je vous prie de l'écouter.
En Pierre et Paul, deux personnes de parcours différents ont su conjuguer leurs efforts pour servir Dieu et leurs frères. En ce pays, les chrétiens, en tant que citoyens, sont également appelés à taire leurs possibles divergences pour faire progresser la nation en servant Dieu et leurs compatriotes. En Pierre et Paul, les considérations sociologiques se sont tues pour faire place à la dignité et à l'égalité de tous devant Dieu et en Dieu.
Comme cette Eucharistie a été célébrée à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi, Monseigneur Datonou en a profité pour saluer les bonnes relations bilatérales déjà existantes entre le Burundi et le Saint-Siège. Bujumbura, Cyril Ndaizeruka de Radio Maria Burundi pour Radio Vatican.
Au Congo, Monseigneur, bienvenue, Manami, car archevêque métropolitain de Brazzaville a présidé cette solennité mercredi 29 juin en la cathédrale Sacré-Cœur, en lieu et place de Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Congo et au Gabon. Séverin Moussavou souligne que le nonce a adressé un message aux fidèles.
C'est pour moi un grand plaisir d'arriver à ce moment où je peux m'adresser à vous pour la première fois. Pour cela, je vous remercie de tout cœur pour les paroles, les signes d'affection et d'amitié qui me sont parvenus de tout le Congo au début de mon ministère de nonce apostolique. Tout cela m'apporte une grande force et aide car je suis ici pour rendre visible la proximité et la sollicitude du Saint-Père, le pape François, pour cette noble nation à déclarer Monseigneur le nonce dans son mot de circonstance au terme de la messe. Aujourd'hui, poursuit-il, est un jour spécial pour prier pour le pape et pour l'Église universelle dans sa diversité. Dieu nous unit dans une même famille, il nous faut être unis dans la diversité. Cette fête révèle la diversité de notre Église et la communion au service de la mission avec la prière qui nous unit, a expliqué Monseigneur Corona. Enfin, il a ajouté que prier pour le pape, c'est prier pour tout ce qui est dans son cœur, dans sa mission et dans ses intentions. Quand il nous demande de prier, il le fait parce qu'il sait que les défis de l'humanité et la mission de l'Église ont besoin de la prière de tous. Le pape croit vraiment que la prière a une fécondité dans le monde et dans nos vies. C'est pourquoi il nous demande de prier à faire savoir le légat du pape. Ainsi, Monseigneur le nonce apostolique a invité l'Assemblée à toujours prier avec foi pour le pape François et pour toute l'Église du Christ.
Restons avec Séverin Moussavou, il nous parle à présent des ordinations sacerdotales en Kayi présidées par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Daniel Mizonzo.
Dans son homélie, Monseigneur Daniel a loué le Seigneur pour ce don et a exhorté les ordonnants en ces termes.
Pour vous tous, diacres comme prêtres, vous devez vivre concrètement et sérieusement les trois promesses que vous allez prononcer devant le peuple de Dieu ici rassemblé. Il s'agit de l'obéissance, du célibat chaste et de la pauvreté.
Au terme de cette messe, l'un de nouveaux prêtres a pris la parole pour exprimer leur gratitude envers Dieu et son peuple. Séverin Moussavou, Brazzaville pour Radio Vatican.
Ordination également dans l'archidiocèse de Dakar au Sénégal. Clément Awandi nous précise qu'elles ont eu lieu au sanctuaire marial de Popongine, mercredi 29 juin, en la solennité des apôtres Pierre et Paul.
Monseigneur Ndiaye a, dans son homélie, exhorté les futurs prêtres et tous les prêtres à plus de générosité apostolique. Ne soyez pas affairés sans rien faire. Ne soyez pas avares de votre être sacerdotal. Fortifiez l'homme intérieur en vous et chez les fidèles, a déclaré l'archevêque de Dakar. Au thème de la célébration, le père Emmanuel Amat Ndong, piariste, a dit le mot de remerciement au nom de tous les nouveaux ordonnés. Clément Arwandino Dakar pour Radio Vatican.
Terminons l'actualité de l'Église par le Cameroun. L'évêque de Ngaoundéré sensibilise les fidèles du Christ sur la nécessité de s'engager concrètement dans le processus synodal. Les détails avec Paul-Valéry Mendongo.
Pour l'évêque du diocèse de Ngaoundéré, Mgr Emmanuel Abo, il faut semer dès la base un climat de collaboration entre les personnes dans leurs diverses communautés de vie. En effet, avancer ensemble implique la connaissance mutuelle et la conscience d'appartenir à une même famille, celle des enfants de Dieu, où on se soutient et s'entraide au-delà des différences, a-t-il souligné. Mgr Abo s'est entretenu à ce sujet avec les candidats à la vie sacerdotale et à la vie religieuse dans le diocèse de Ngaoundéré, ainsi que leurs formateurs. Puis il a adressé le même message aux catéchistes réunis pour leur troisième session de formation du 27 au 30 juin 2022 sous le thème « Témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre ». Paul-Valéry Mendogo, DDA pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'ambassadeur d'Espagne a été convoqué vendredi par le gouvernement malien après des propos du ministre espagnol des Affaires étrangères qui a dit ne pas exclure une intervention militaire de l'OTAN dans le pays. Une intervention de l'OTAN au Mali, nous ne l'excluons pas. Si cela représentait une menace pour notre sécurité, nous le ferions, avait déclaré jeudi José Manuel Álvarez, chef de la diplomatie espagnole à marge du sommet de l'Alliance qui se tenait à Madrid. Des propos jugés inacceptables, inamicaux, graves, parce qu'ils tendent à encourager une agression contre un pays indépendant et souverain, a estimé le ministre des Affaires étrangères du Mali. Nous avons demandé des explications, une clarification de cette position au gouvernement espagnol. Nous espérons que cela va venir assez rapidement, a-t-il ajouté. Des manifestants ont investi vendredi le siège du Parlement libyen à Tobrouk dans l'est du pays pour protester contre la détérioration des conditions de vie et l'incurie de leurs dirigeants au lendemain de l'échec des nouveaux rounds des négociations entre camps rivaux. Selon plusieurs chaînes de télévision, des manifestants ont pénétré à l'intérieur du bâtiment et commis des saccages. Des images diffusées par les médias montraient d'épaisses colonnes de fumée noire se dégageant du périmètre de la bâtisse après que des jeunes protestataires en colère aient brûlé des pneus. Tout en reconnaissant le droit des citoyens à manifester pacifiquement, le Parlement a condamné dans la nuit de vendredi à samedi les actes de vandalisme et l'incendie de son siège. Le premier ministre du gouvernement basé à Tripoli, Abdelhamid Beba, a pour sa part assuré joindre sa voix à celle des contestataires appelant à la tenue d'élections.
Radio Vatican, France et Afrique. Marie-José Moindo.
L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est dans un état critique et délicat après avoir subi un arrêt cardiaque il y a plus d'une semaine. Dans sa première communication depuis l'annonce de l'hospitalisation de l'ex-chef de l'État la semaine dernière, la famille a révélé qu'il avait subi un arrêt cardio-respiratoire le 23 juin. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, a exprimé vendredi son inquiétude face au meurtre d'au moins 9 manifestants, dont un mineur, dans les forêts de sécurité au Soudan, réclamant une enquête indépendante. Le père Flavien Zolabi présente la méditation des textes liturgiques de ce dimanche.
Chers frères et sœurs, les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui font retentir dans nos oreilles et dans nos cœurs deux paroles essentielles, deux désirs fondamentaux de l'homme qui sont malheureusement inassouvis dans la vie des tant de peuples de notre société actuelle, la joie et la paix. C'est déjà dans la première lecture, tirée du dernier chapitre du livre du prophète Isaïe, que nous rencontrons cette annonce de la joie et de la paix. En effet, au retour de l'exil à Babylone, le petit peuple d'Israël se trouve découragé à cause de la situation économique et sociale précaire rencontrée sur la terre de leur père. Et c'est pour réveiller l'espoir de ses fidèles découragés que le prophète lance cet appel. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous qui l'aimez. » Le prophète invite les exilés à abandonner leur tristesse parce que, comme une mère, le Seigneur les réconfortera. La prospérité reviendra, la ville sera reconstruite et le Seigneur lui-même dirigera vers elle la paix comme un fleuve. Le récit de l'Évangile nous raconte l'envoi en mission des 72 disciples, un chiffre symbolique qui représente sans doute tout le peuple. Au moment de les envoyer, Jésus leur donne un certain nombre de consignes et d'enseignements. Il leur demande d'abord de prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Oui, le secret de l'évangélisation ne réside pas prioritairement dans les efforts humains de prévoyance et de planification, bien qu'utiles et nécessaires, mais plutôt dans la bienveillante assistante de Dieu lui-même. Les ouvriers messagers sont des instruments et serviteurs de la vigne de Dieu, d'où il faut prier Dieu. En outre, Jésus invite les disciples missionnaires au détachement matériel pour mettre toute leur confiance en la providence divine qui se manifeste aussi à travers la générosité des hommes. Aussi, Jésus les prévient de l'hostilité à laquelle ils seront confrontés dans leur mission. Ils seront rejetés, humiliés, persécutés. Et l'histoire du christianisme nous renseigne que cette hostilité contre les messagers de la bonne nouvelle reste toujours d'actualité. Enfin, la paix, le shalom, est une de ces grâces que le Seigneur Jésus demande à ses disciples d'apporter au peuple vers lequel ils sont envoyés. Nous le savons, pour vivre selon les desseins du Père, les hommes ont besoin de la paix entre eux, entre les peuples, et la paix intérieure dans les cœurs de chaque individu. Jésus lui-même, après sa résurrection, offrit la grâce de la paix à ses disciples apeurés et enfermés. Mais la paix, ce don de Dieu, peut bien être accueillie ou rejetée par les destinataires de la bonne nouvelle. Elle peut aussi être entravée par des intérêts égoïstes des hommes. C'est la triste réalité de notre monde actuel où de nombreux peuples sont contraints de vivre dans des situations de misère, de conflits communautaires, de guerres sans nom. Demandons au Seigneur de faire de nous, chacun selon son état de vie, des missionnaires de la joie évangélique et des artisans de la paix.
Invité du jour.
Notre invité du jour est Mgr Émile Mouchocho, administrateur apostolique de Dungudo-Ruma en République démocratique du Congo. Dans cet entretien réalisé par notre correspondant Jean-Baptiste Malengue, Mgr Mouchocho lance un appel aux congrégations religieuses pouvant desservir au sein de ce diocèse. On l'écoute.
Le diocèse de Dungudo-Ruma, c'est un diocèse qui compte 44 000 km² avec 11 paroisses. Et nous avons 45 prêtres diocésains, mais de ces 45, il y a certains qui sont à l'extérieur pour les études. Et nous avons aussi une congrégation de pères augustins. C'est ainsi que 2 paroisses se sont occupées par eux, les augustins, et 9 paroisses par les diocésains. Mais nous trouvons que c'est insuffisant à voir comment certains fidèles doivent faire plus de 150 km pour accéder à l'Eucharistie. Et imaginez-vous, pour les enfants, c'est pénible. Ils doivent passer la nuit sur la route et pour arriver le lendemain afin de participer à une messe. C'est ainsi que nous sommes à la recherche d'une aide missionnaire, comme le pape l'avait dit, la charité missionnaire, pour avoir l'une ou l'autre congrégation qui peut accepter de venir nous aider pour ouvrir d'autres paroisses, parce qu'il y a des centres où vous trouvez la population, il y a des gens qui sont aussi dynamiques, qui manquent quelqu'un pour les guider, et qui peuvent devenir des paroisses au cas où on a le personnel. Et c'est ce que nous demandons. Parce que si on arrive à ouvrir même 5-6 paroisses, ça peut peut-être soulager un peu la population. de Dungu-Dorima.
Vous vous adressez à des congrégations religieuses ou vous demandez aussi l'aide d'autres diocèses? Les prêtres diocésains, ils sont aussi disponibles, n'est-ce pas?
Je sais qu'ils sont disponibles, mais je lance plus l'appel aux congrégations missionnaires. Parce que, comme le nom même le dit, ils sont missionnaires, ils seraient aptes, souples d'aller partout. Et surtout pour nous autres, c'est vrai, je dois être clair, le diocèse de Dungu-Dorima, c'est un diocèse rural. Et nous avons des difficultés sur le point transport routier, parce que ce n'est pas facile, les routes au Congo. Et vous devez faire parfois des motos, les véhicules n'y arrivent pas, il faut seulement la moto, 300 km sur moto, c'est pas facile, c'est fatigant, mais au nom de la foi, on arrive quand même à le faire.
Monseigneur, beaucoup d'autres diocèses demandent aussi des religieuses, ce n'est pas pour les sacrements, mais c'est pour d'autres œuvres, de charité notamment. Qu'en est-il au diocèse de Dungu-Dorima?
Le diocèse de Dungu-Dorima ne serait pas mécontent aussi d'accueillir d'autres congrégations religieuses, parce que pour le moment, je peux dire que nous n'avons qu'une congrégation diocésaine qui est là. Alors nous avons deux communautés, d'autres congrégations qui sont venues d'ailleurs, mais juste deux communautés qui sont là au centre. Et c'est pour vous dire que toutes les autres paroisses nécessiteraient d'avoir des religieuses, parce que vous trouvez des gens qui vous les disent, parce que les religieuses nous aident beaucoup dans le social. C'est pas pour les sacrements, mais elles ont quand même de la place.
Et les filles et les fils de Dungu, des vocations, l'appel du Seigneur, ça ne leur dit rien?
Oui, les fils et filles de Dungu, la vocation, ça dit quelque chose, mais vous voyez que les difficultés que nous avons, et que la plupart des jeunes, vers la sixième primaire, il manque comment continuer avec les études. Alors, ils abandonnent. C'est ainsi qu'une bonne partie, pour les jeunes garçons, ils s'orientent vers les carrés miniers pour aller chercher, parce qu'ils se disent « je dois chercher comment vivre ». Ils vont chercher les minerais, travailler là, ils se perdent dans ça. Et les filles, parfois, quand ces garçons entrent là et ils attrapent un peu de sous, les filles, et comme conséquence, les garçons les entraînent et vous apprenez une fille de 14, 17 ans déjà enceinte. Alors elle ne sait plus ou non plus continuer. C'est ainsi qu'il y a moins de vocations.
Monseigneur Émile Mouchocho, administrateur apostolique de Dungu-Dorima en République démocratique du Congo, il répondait aux questions de Jean-Baptiste Malenge Kalunzu.
Bouclons ce programme avec le début de la campagne de vaccination pour tous qui durera jusqu'au 30 septembre en vous présentant l'histoire du vaccin. Dès l'Antiquité, on avait remarqué que les personnes atteintes une première fois de certaines maladies infectieuses ne tombaient pas malades une seconde fois.
Vaccin pour tous.
Les vaccins jouent un rôle précieux en protégeant la santé de chacun partout dans le monde. La question de l'hésitation vaccinale a été de nouveau alimentée par la pandémie de COVID-19. Connaître l'histoire du vaccin est pertinent en cette période de résurgence et d'insurrection épidémique et pandémique. Françoise Niamien.
Oui, Marie-Josée, on trouve des premiers indices dans l'histoire de l'homme au Xe siècle en Chine pour lutter contre le virus de la variole. Mais c'est du milieu du XVIe siècle que datent les premières utilisations documentées, et c'est encore en Chine.
Comment sommes-nous arrivés à la forme moderne de la vaccination?
C'est un long processus de développement qui s'est opéré à travers les siècles. Les premières véritables expérimentations scientifiques datent de la fin du XVIIIe siècle, mais il faudra attendre l'année 1880 et Louis Pasteur pour les premiers vaccins tels qu'on les connaît aujourd'hui encore. Pasteur a développé un procédé qui stimule le système immunitaire. L'organisme humain apprend à reconnaître un agent infectieux, il développe des anticorps et protège de la maladie. Ainsi, des millions de vies ont pu être sauvées de graves maladies comme le tétanos ou encore la poliomyélite. Concernant la COVID-19, une étude britannique publiée fin juin dans la revue scientifique The Lancet estime que le vaccin contre le coronavirus aurait sauvé 20 millions de vies humaines.
Merci Françoise.
Vaccins pour tous.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.